CFM, le mag.
Bonjour à tous, Emeline Blanc-Gauthier, comportementaliste félin, sera notre invitée dans la seconde partie du MAG. Dans la première, tout de suite, on s'intéresse au grand débat national lancé par le président Macron. Il y a quelques jours, il a débuté dans certaines communes. À Rodez, la mairie a décidé d'organiser 4 réunions pour ce grand débat national. Le maire, Christian Tessèdre, l'a annoncé en fin de semaine dernière.
Alors, il va se dérouler en 4 étapes qui correspondra aux 4 thèmes nationaux sur la fiscalité, la baisse de la dépense publique, la transition énergétique et la rénovation de la vie publique. Ces 4 thèmes seront 4 réunions qui auront lieu à la salle des fêtes et à l'amphithéâtre. On prévoit 3 heures de réunion, 17h, 20h chaque fois. Il y aura d'abord 2 intervenants extérieurs qu'on a choisis par leurs compétences, soit éducatives, soit journalistiques, qui permettront de poser le débat pendant un quart d'heure, 20 minutes. Après, on fera des tables rondes pendant 1 heure où les gens s'exprimeront et ressortiront les priorités des gens qui sont dans ce tour de table. Et après, pendant 1h30, les rapporteurs de ces tables rondes et les animateurs réfléchiront ensemble des propositions qu'on remontera à la préfecture et donc au niveau national.
Pourquoi vous avez choisi ce système en faisant en sorte que les élus s'effacent finalement ?
Parce qu'il me semble que c'est un débat national, c'est pas un débat local. Je pense qu'on est là pour encadrer, parce que la mairie, la commune, c'est le premier échelon de la démocratie depuis 1789. Et je pense qu'on est pleinement dans notre rôle. Après, si jamais ils veulent poser une question locale, on répondra. Mais les questions nationales méritent d'être traitées directement citoyennes entre eux et les remonter avec des animateurs. Bon, je pense que c'est la bonne solution. Après, on verra.
Ce travail en commission aussi, pourquoi vous avez choisi cette formule ?
Mais de manière qu'il n'y ait pas un échange direct entre citoyen et l'animateur et qui cristallise tout le débat. Je pense qu'il vaut mieux qu'on remonte en débat public des remontées d'une vingtaine de citoyens qui auraient été autour d'une table ronde, qui dégageront 2 ou 3 priorités qu'on débattra tous ensemble, et non pas une personne qui va intervenir et plusieurs derrière qui vont rebondir sur une question qui pourrait être une question qui n'a pas d'intérêt par rapport à un groupe de personnes. L'intérêt, c'est quand même de partager ensemble.
Est-ce que vous pensez que ce débat va être utile ?
Oui, moi je pense qu'il sera très utile. Je pense que les communes ont un rôle à jouer, les citoyens, la presse, et remonter des problèmes. Parce que aujourd'hui, on est arrivé dans une complexité au niveau du fonctionnement de l'État, du fonctionnement de l'Europe, du fonctionnement des régions, des départements, des communes, qui mérite d'être expliqué. On ne peut pas tout à la fois vouloir l'augmentation des dépenses et l'augmentation du pouvoir d'achat. Ça ne fonctionne pas dans un modèle économique. Donc il va falloir faire des choix, mais des choix positifs en termes de justice sociale, en termes de justice fiscale, en termes d'amélioration de la vie, et que la promotion sociale fonctionne dans ce pays parce qu'elle est un peu arrêtée.
Ces débats, ils sont organisés à la salle des fêtes et à l'amphithéâtre. Donc effectivement, il y a de la place. C'est parce que vous avez des retours comme quoi vraiment il y a une demande de débat et qu'il fallait proposer les plus grandes salles de Rodez pour recevoir tout ce monde.
Je pense qu'il y aura plus que Rodez dans ce genre de débat. Le chef-lieu du département, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des grands espaces. Aujourd'hui, les gens ont envie de partager. Vous savez, on a tous, quand on est urbain de Rodez, on a tous une fibre rurale. Et quand on est en rural, on a aussi la fibre de Rodez. Donc aujourd'hui, il faudra échanger les gens. Et je suis certain qu'il y aura du monde.
Vous avez choisi donc par débat une des thématiques proposées par le gouvernement, enfin autour de l'organisation de ce grand débat. Vous dites pas que c'est aussi un petit peu trop cadré, ces débats ?
Non, je pense pas qu'ils soient trop cadrés. Je pense que les 4 thèmes ont été bien choisis. Bien sûr, il pourrait y en avoir d'autres. Je pense qu'ils ont été particulièrement bien choisis. Et ça mériterait pas 2 mois de débat, mais 1 année de débat. Pour que les choses avancent vraiment et que notre pays tout à la fois se modernise sur le plan économique, se modernise aussi sur le plan social, mais sur le plan citoyen aussi.
En organisant ces débats, vous répondez au gouvernement d'une certaine façon. En bon élève, j'ai envie de dire, je fais ce qu'on me dit de faire, ou c'est parce que vous aussi, vous y croyez ?
Moi, je suis pas un tempérament de bon élève. Non, mais je pense que j'ai envie que les choses s'améliorent dans ce pays, et ça passe par le débat, l'information. Vous avez un rôle immense à jouer dans ce pays. Je pense que la presse, c'est justement dans des situations comme ça où elle a gagné ses lettres de noblesse, et nous, c'est pareil. Si on l'organise bien, je pense que les citoyens auront confiance aux hommes politiques aussi, et aux femmes politiques.
Vous-même, si on retirait la casquette d'élu, que je vous faisais enfiler virtuellement un gilet jaune, ça serait quoi vos revendications ?
Moi, ma revendication, je ne peux pas m'enlever mes 20 ou 30 ans de vie politique, mais de clarifier le fonctionnement des collectivités. Franchement, il y a un chantier à faire. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les communes sont mal dotées. Beaucoup trop de financements vont à d'autres strates intercommunales, départementales, régionales. Et un élu de base dans les communes, il se sent dépourvu. C'est ce que pensent les maires ruraux. Alors qu'il devrait avoir davantage de moyens, moins de financements croisés. Je pense qu'à un moment, une loi avait été votée en 2004, elle mériterait aujourd'hui de revenir d'actualité, de manière que les communes se sentent davantage les acteurs locaux, ce qui impliquerait davantage les citoyens.
Parmi toutes les revendications diverses et variées des Gilets jaunes, de laquelle vous vous sentez-vous la plus proche? C'est quoi? C'est le pouvoir d'achat, les questions de démocratie, de référendum, c'est quoi?
Ben c'est l'envie de bien vivre, l'envie d'être rémunéré en fonction du travail qu'on fait, d'être mieux considéré. Je pense qu'il y a aussi il n'y a pas qu'un problème de justice fiscale, de justice sociale, il y a un problème de considération vis-à-vis de certaines personnes dans cette société. Et je pense que de ce point de vue-là, ils ont eu raison. Pleinement raison.
Donc ça, ce sont des débats qui sont organisés par la mairie de Rodez. Est-ce que ça laisse aussi la porte ouverte à d'autres possibilités d'organisation de réunions publiques sur Rodez, soit par des particuliers, des gilets jaunes, des associations? Est-ce que vous êtes prêts, dans la mesure de vos moyens, de faciliter l'organisation d'autres débats?
Bien sûr, vous avez tout à fait raison. D'abord le niveau associatif, mais aussi d'autres élus départementaux, régionaux, députés, sénateurs. La ville de Rodez est ouverte de laisser ses salles de réunion à des réservations. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense que le débat, c'est pas le monopole des communes, mais la commune, c'est l'assise de la démocratie depuis la Révolution. C'est le premier échelon.
À côté du débat national, il y a les mouvements qui continuent dans les rues, dans les grandes villes en particulier. Ça vous inquiète? Ça vous fait peur?
Pas du tout. Moi, je trouve que aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes réveille ce pays. Parce que ce pays glissait quand même vers les extrêmes. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ils sont en train de réveiller la politique et la démocratie dans ce pays. Moi, j'ai pleinement confiance dans le mouvement des Gilets jaunes, de réveiller cette démocratie. Merci. Ils n'auraient pas été là, il n'y aurait pas ces débats.
Voilà, et donc première réunion organisée par la mairie de Rodez dans le cadre du grand débat national le premier mercredi de février. Dans deux semaines, la mairie annoncera prochainement quelles seront les thématiques pour chacune des dates décidées et annoncées. Musique tout de suite, Bess Arst, Bang Bang Boom Boom. Et on se retrouve juste après avec Emeline Blanc-Gauthier, comportementaliste félin.
Boom, boom, boom. Why your love?
Deuxième partie du Magrand Rodez en CFM sur le 107.9. Émeline Blanc-Gauthier est notre invitée. Émeline Blanc-Gauthier, c'est la présidente de l'association Chat Libre 12. Elle est aussi depuis quelques semaines comportementaliste félin. C'est vrai que les chats sont parfois difficiles à comprendre, voire complètement incompréhensibles. C'est Émeline qui a les clés.
Oui, tout à fait. J'ai suivi une formation l'année dernière pendant plusieurs mois pour avoir toutes les connaissances et les compétences pour exercer.
Alors, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça veut dire comportementaliste félin?
En fait, c'est trouver des solutions et conseiller les familles qui ont des chats qui ont des troubles du comportement. Les troubles du comportement, c'est souvent de la malpropreté, de l'agressivité, des difficultés de cohabitation avec un autre chat ou un chien.
Mais c'est compliqué à comprendre un chat, voir ce qu'il veut dire.
Il est tout autant expressif qu'un chien, mais on n'arrive peut-être pas à repérer tous les signes qu'il montre. En étant moins expressif, un chien remue la queue, bouge les oreilles, change de regard. Un chat a aussi ses signaux, mais qu'on a du mal, un peu nous, humains, à analyser.
Alors ces signaux, vous me parliez d'agressivité.
Oui, il y a l'agressivité. Il y a déjà comment se comporte le chat, donc comment il tient les oreilles, comment sont ses pupilles, comment est sa queue, comment est son poil. Et là, en observant le chat, déjà, on peut voir comment il se sent. Est-ce qu'il se sent serein? Est-ce qu'il se sent agressif? Est-ce que agressé? Est-ce qu'il est sur la défensive? En observant tout ça, déjà, on pourra voir comment est le chat.
Vous me donnez d'ailleurs quelques indices sur des mauvais signes extérieurs.
Ah ben, il y a déjà le poil hérissé, ça on le voit aussi chez le chien.
Ouais.
Il y a la posture des oreilles vers l'arrière. Et puis, on voit tous un chat qui souffle, qui grogne, qui montre les dents. Voilà, ça c'est, on va dire qu'il faut ne pas l'embêter à ce moment-là, ne pas le solliciter.
Et c'est éventuellement dans ces cas-là que l'on peut éventuellement faire appel à un comportementaliste félin. Donc vous, comment vous travaillez? Ça consiste en quoi votre boulot?
Moi, je vais uniquement chez les gens. C'est important pour moi de voir le lieu de vie du chat, de connaître le mode de vie aussi de la famille. La consultation, elle dure 1h30, 2h. Donc, ce qui me laisse le temps de poser beaucoup de questions pour connaître tous ces éléments, connaître aussi le problème, pourquoi il me sollicite. Et à l'issue de cette consultation, je vais donner déjà des réponses aux questions, des choses à mettre en place pour que ce comportement s'améliore, voire disparaisse, et aussi donner plusieurs conseils sur l'alimentation, sur la disposition du lieu de vie, sur le comportement que l'humain doit avoir avec son animal.
Parce que justement, quand un chat a un problème de comportement, puisque c'est à ça qu'on le voit, le problème, il vient pas aussi surtout plutôt de son proprio, son maître, ou je sais pas comment vous dites.
Son humain,
ouais.
Bien évidemment, voilà. Souvent, c'est. Je dis pas que le maître est responsable. Je dis que souvent, c'est un manque de connaissance du chat en général et de son animal, parce que la majorité des gens qui ont un animal veulent bien faire. C'est aussi pour ça que j'interviens. Bon, quand il y a un trouble du comportement, mais je peux aussi intervenir juste pour améliorer la vie du chat, parce que le maître a envie que son chat soit le plus heureux et mieux le connaître.
Vous avez des exemples à me donner sur les modifications dans notre comportement à nous pour que le chat aille mieux?
Alors, vous avez déjà dû entendre parler de chats qui buvaient au robinet.
Oui, enfin, j'ai vu des vidéos sur Internet, parce qu'on voit que ça, les vidéos de chats, ça marche super. Donc, voilà. J'ai déjà vu le chat qui boit de l'eau au robinet. Quoi, c'est pas voilà. Bien?
Et qui ne boit pas dans sa gamelle.
Oui, moi, la mienne, elle veut boire que dans des petits trucs des dessous de pots de plantes.
Oui, ça doit avoir bon goût. Mais c'est surtout que souvent, on met la gamelle d'eau à côté de la gamelle de croquettes. Et le chat, dans la nature, ne mange jamais ses proies à côté de son point d'eau pour pas le polluer. Donc un chat qui ne boit pas dans sa gamelle, c'est souvent parce qu'elle est trop proche de ses croquettes.
D'accord.
Et c'est pour ça qu'il va chercher d'autres points d'eau, donc les pots de plantes, le robinet, les verres d'eau qui traînent, hein, dans la baignoire aussi.
D'accord, donc à ce moment-là, ce que vous conseillez dans un premier temps, déjà, c'est d'écarter le petit bol d'eau du petit bol de croquettes.
Voilà, de laisser environ 60 cm.
60 cm.
60 cm entre l'eau, les croquettes et bien sûr la litière et le lieu de repos.
Pareil, la litière doit être assez éloignée, enfin pas toute proche du lieu d'où le chat se nourrit.
Voilà, tout à fait.
Les chats, il y a tout un tas de races, ou pas de races d'ailleurs, il y a des chats de gouttière comme on dit. Il y a des différences entre les races de chats dans le comportement?
Il peut en avoir, oui. Peut-être moins marqué que chez le chien. La façon de les aborder sera la même pour moi, d'aborder en tout cas le problème. Il y aura plus des différences entre un chat qui a l'habitude de sortir et un chat d'intérieur. En sachant que souvent le chat de race est un chat d'intérieur.
Concernant le comportement anormal ou problématique des félins, c'est quoi ce qui revient le plus souvent ?
La première cause de consultation en comportement félin, c'est la malpropreté.
D'accord, c'est-à-dire ils font pas là où on leur dit de faire.
Voilà, ils font pas la litière, donc il y a le marquage urinaire à distinguer donc de du pipi qu'on retrouve sur les tapis, sur les lits, sur les vêtements.
Pourquoi à distinguer ?
Parce que c'est déjà c'est pas la même position qu'utilise le chat et lui il n'a pas les mêmes raisons, son comportement n'est pas fait, c'est deux raisons différentes.
D'accord. Voilà. Alors ce serait quoi ? Bon, sans qu'on rentre dans les détails évidemment de votre métier et de votre formation, c'est quoi les raisons de ce comportement ?
Alors le marquage urinaire, comme il le dit, c'est pour marquer un territoire et déposer son odeur. La malpropreté, vraiment uriner à un endroit qui ne lui est pas dédié, ce sera un trouble du comportement. Souvent lié au stress ou tout simplement la litière qui n'est pas bien placée, qui n'a pas un substrat qui convient au chat.
D'accord, donc ce qui veut dire que le marquage, à la limite c'est normal et ça va passer une fois que tout sera bien marqué dans l'appartement comme chez moi.
Oui.
Voilà. Si ça continue un peu trop longtemps, c'est qu'il y a un problème de comportement.
Oui, déjà la première chose pour éviter les marquages urinaires, c'est la stérilisation.
Ah moi elle est stérilisée, mais ça l'a pas empêché.
Et c'est souvent le mâle qui fait du marquage urinaire.
Moi, c'est une femelle. Je suis tombée sur le cas.
Voilà, c'est parfait. Voilà, c'est souvent le mâle qui fait du marquage urinaire, mais ce n'est pas non plus que les mâles. En stérilisant assez tôt, donc moi, je recommande une stérilisation avant 6 mois. Oui. Certains vétérinaires le font à partir de 2 mois. Donc, c'est très tôt et on évite, du coup, des mauvais comportements du marquage. Généralement, on n'a pas de problème quand le chat est stérilisé.
Alors concernant le cas plus problématique de la malpropreté qui dure au-delà du marquage, dans ces cas-là, vous me dites c'est un problème de disposition de la litière, c'est pas parce qu'il m'aime pas, il est pas content ou je ne sais quoi.
Non, déjà il faut voir la litière. Alors il y a plusieurs modèles de bacs, il y a les bacs ouverts et les maisons de toilettes qu'on appelle. Certains conviennent à certains chats et d'autres pas. Il faut voir celle qui conviendra au chat. Et aussi le substrat qu'on utilise, c'est-à-dire la litière. Il y a la litière végétale, il y a les petits graviers, il y a la silice, il y a plusieurs choses. Certaines conviennent, d'autres pas. Pour un chat, il faudrait avoir 2 litières.
Ah bon ?
Et à chaque fois qu'il y a un chat de plus, 1 litière de plus. Donc si on a 4 chats, il faudrait 5 litières.
Oh bah donc sinon, avec un seul chat, moi je devrais avoir 2 litières chez moi ?
2 litières,
fait. Mais pourquoi ?
Certains chats apprécient d'uriner dans une et de déféquer dans l'autre.
Ah non, ça ne m'a pas encore fait ça. Ne lui donnez pas des idées, s'il vous plaît. Emeline, donc la malpropreté, première cause de difficulté du comportement du chat. Sinon, ensuite derrière, on a quoi comme cas relativement courant et qui peut se corriger ?
L'agressivité. Donc le chat qui est agressif, souvent lié à un mauvais sevrage, c'est-à-dire séparé de sa mère et de sa fratrie trop tôt. Moi, je recommande une adoption à partir de 2 mois et demi, pas moins. Même 3 mois, 4 mois, c'est encore mieux. Ça lui laisse le temps d'apprendre beaucoup de choses avec sa maman et avec ses frères et sœurs. C'est très important parce qu'après, le comportement, il peut être pour 15 ou 20 ans.
Alors vous, quand vous intervenez en tant que comportementaliste félin, vous nous avez dit, vous allez chez les propriétaires,
oui,
faire un diagnostic, voir le contexte, l'environnement. Derrière, votre travail, c'est quoi ? C'est plusieurs rendez-vous ? C'est au long cours sur des semaines, des mois, des années ou baguette magique ?
Alors, baguette magique, ce serait bien.
Ça serait bien.
Non, il y a une consultation, donc comme je disais, entre 1h30 et 2h. Et on se laisse 1 mois avant de faire un point par téléphone de 20 minutes, 30 minutes. On peut me rappeler avant s'il y a besoin, mais malheureusement, souvent les gens ne sont pas patients et aimeraient que justement par magie, dès le lendemain, tout soit solutionné. Déjà, ça prend du temps de changer toutes les habitudes et le chat a besoin de temps pour s'acclimater à ces changements et améliorer son comportement. Donc 1 mois, c'est bien. Il y a, je propose aussi, donc là, c'est pour préparer un changement. Donc le changement, ça peut être un déménagement, l'arrivée d'un bébé humain, l'adoption d'un autre animal, un chat, un chien, et on a envie de préparer son chat à ce changement. Donc il y aura une première consultation et une deuxième pour le après. C'est ce que j'appelle le forfait avant-après. Ça évite en fait de me solliciter après, quand on a fait des ratés pour le changement.
Comment on peut faire pour faire appel à vous sur le département de l'Aveyron, voire même éventuellement un petit peu au-delà, pour vous contacter, Emeline, en savoir plus et s'intéresser à des cas particuliers?
Alors, j'ai une page Facebook qui s'appelle Comportementaliste Félin 12. Il y a un site internet, donc comportementalistefélin.com. Il y a aussi un numéro de téléphone que je vais vous laisser donner.
Alors c'est le 06 47 09 30 78, 06 47 09 30 78. La question, j'espère qu'il ne va pas vous fâcher, comment ça coûte grosso modo?
Alors une consultation d'une heure et demie, deux heures, c'est 75 euros. Moi je suis auto-entrepreneur, donc de ces 75 euros, je paye aussi mes charges sociales.
Eh oui.
Et ensuite, le suivi, les conseils par téléphone et le bilan, bien sûr, compris dans ce forfait.
C'est la fin de ce mag Grand Rodez pour aujourd'hui. Une bonne journée à tous sur CFM et à demain à la même heure. Thank you.